Vendredi 26 juin, bonjour et bon réveil à tous. Bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, un premier médicament contre le Covid-19, le Remdesivir, a obtenu le feu vert de l'Agence européenne des médicaments, malgré les réticences de certains scientifiques et dans un contexte de reprise de la pandémie aux États-Unis. Les autres titres, Agnès?
BNC à vos portes, un premier vol au départ d'Orly ce matin après 3 mois de fermeture. Les municipales J-2, extrait du débat des candidates parisiennes hier soir. Les AG de copropriété se mettent à la visioconférence et puis le sacre de Liverpool dans le championnat anglais.
Invité de France Inter ce matin à 7h50, invité exceptionnel, sa parole est extrêmement rare. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sera au micro d'Inter. Et à 8h20, le grand entretien de la matinale avec la présidente du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie, Laurence Descartes. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter.
France Inter. C'est donc la première thérapie à avoir montré une certaine efficacité pour les malades souffrant d'une forme grave du Covid-19. Le Remdesivir est un antiviral développé contre la fièvre Ebola et mis au point par le laboratoire américain Gilead. L'Agence européenne du médicament a recommandé hier son utilisation, se basant sur des preuves scientifiques qui paraissent pourtant, Véronique Julia, assez fragiles.
L'Agence se fonde sur une étude américaine qui avait déjà fait parler d'elle fin avril. À l'époque, le fabricant du Remdesivir, le laboratoire Gilead, s'était félicité de ses résultats préliminaires qui montraient un rétablissement plus rapide des patients sévères traités avec la molécule. L'étude randomisée en double aveugle portait sur plus de 1000 patients. Le groupe traité au Remdesivir guérissait de fait 4 jours plus vite que les autres. Des résultats modestes qui avaient pourtant conduit les États-Unis à l'époque à autoriser la molécule. L'Agence européenne du médicament a préféré attendre la publication fin mai des résultats définitifs de l'essai pour leur emboîter le pas. La preuve est pourtant maigre. L'étude ne montre aucun bénéfice en termes de survie. S'étonne l'infectiologue Benjamin Davido, qui ne comprend pas cette recommandation.
Pourquoi est-ce qu'on irait donner un nouveau médicament qui coûte cher, qui a une néphrotoxicité, donc qui est toxique pour le rein? Ben je m'interroge. Il n'y a pas de preuve scientifique sur un essai randomisé d'une efficacité statistiquement démontrée. Probablement, il y a un certain lobbying pharmaceutique pour placer des médicaments. En tout cas, il faut creuser cette piste.
L'Agence européenne recommande l'utilisation de ce traitement expérimental chez les patients à partir de 12 ans atteints de pneumonie liée au Covid et ayant besoin d'un apport en oxygène. Une étape à franchir encore, on attend que la Commission européenne approuve ou pas cette recommandation, théoriquement dans la semaine à venir.
Un premier médicament, une course au vaccin dans les labos du monde entier, alors que la situation reste préoccupante en Amérique latine, avec plus de 25 000 morts au Mexique et près de 55 000 au Brésil. Aux États-Unis, après une longue période de stabilisation, les chiffres de la pandémie repartent à la hausse, obligeant le Texas à freiner le déconfinement. En Californie également, les nouveaux cas ont bondi de 69% en début de semaine. Reportage à Los Angeles, signé Loïc Piala.
La plage de Long Beach est quasiment déserte. Il n'y a personne à au moins 20 mètres de Stéphanie. La jeune femme ne veut pas enlever son masque pour autant. Entre mardi et mercredi, la Californie a enregistré plus de 7000 nouveaux cas de coronavirus, un record sur 24 heures. Beaucoup de gens vont à la plage, en particulier le week-end, explique Stéphanie. On ne sait pas ce qu'il reste comme germe. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'autres cas, ça fait peur. Andrew aussi a peur, alors même si ce n'est pas pratique, il garde son masque pendant son tour de vélo le long de l'océan. Le comté de Los Angeles concentre plus de la moitié des 5800 morts de Californie. On continue à rouvrir l'économie alors qu'il y a de plus en plus de cas, constate cet étudiant. Du coup, je suis un peu plus inquiet maintenant. Les autorités avaient prévenu que la réouverture de l'économie allait sans doute s'accompagner d'une hausse des cas. Elles n'avaient peut-être pas prévu une telle augmentation. Timothy Brewer, professeur d'épidémiologie à l'université UCLA. Je ne crois pas que les chiffres actuels soient normaux, dit-il, ils sont inquiétants. D'abord parce que les cas n'ont jamais baissé, mais aussi parce que depuis quelques jours, en particulier à Los Angeles, les hospitalisations sont reparties à la hausse. En Californie comme ailleurs, la lutte contre le coronavirus passe par le dépistage. Le gouverneur Gavin Newsom assure que son État peut tester jusqu'à 100 000 personnes par jour. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Quant à la situation en Europe, elle reste préoccupante, estime l'OMS, alors que les fortes chaleurs ont précipité les Anglais sur les plages du sud du pays hier, obligeant les autorités locales à faire intervenir la police. En France, 21 décès enregistrés au cours des dernières 24 heures dans les hôpitaux et le nombre de malades en réanimation continue de baisser. Ils étaient 651 hier soir. La reprise de l'activité se poursuit donc avec la réouverture ce matin de l'aéroport d'Orly. Après 3 mois sans trafic, le premier vol a décollé il y a une demi-heure direction direction Porto, mais les salariés restent très inquiets pour l'avenir. 85% des 6500 salariés d'ADP étaient en chômage partiel jusqu'ici. Que va-t-il se passer dans les semaines et les mois à venir? Élément de réponse avec Manuel Ruffez.
Ça fait 35 ans qu'il travaille là, Laurent Garcine, le secrétaire général de l'UNSA Aéroports de Paris. Mais une crise comme celle qu'il vient de traverser, même pour lui, c'est inédit.
Cette crise est vraiment historique. Nous avons connu quelques difficultés, 91, 2001, 2008, de voir les avions cloués au sol, de plus avoir le bruit d'un avion, c'est du jamais vu.
Alors l'ouverture aujourd'hui, pourquoi pas, mais il le soutient. Pour lui, c'est une décision politique plus qu'économique, pas sûr que ce soit rentable.
Il y a plus d'un mois et demi où le secrétaire d'État au transport a annoncé déjà l'ouverture d'Orly pour le 26 juin. On espère tout simplement que l'ouverture d'Orly ne coûtera pas plus cher que ce qu'elle rapporte.
Le trafic est en chute libre. Aéroports de Paris devrait perdre en 2020, selon la direction, la moitié de son chiffre d'affaires. L'UNSA s'inquiète donc pour les salariés et les sous-traitants.
Peut-être que des terminaux vont être obligés de rester fermés pendant quelques années. Derrière ça, il y a les salariés d'Aéroports de Paris. J'ai aussi une pensée aussi pour nos équipes sous-traitantes, parce que il y a les équipes sous-traitantes du ménage, il y a la sûreté, il y a les compagnies aériennes. Le bassin de l'emploi sur les plateformes parisiennes, il va être très sinistré.
On attend un rendez-vous avec la direction pour en discuter, dit Laurent Garcine, mais pour l'instant, pas de nouvelles.
La crise du Covid a également précipité la mise en retraite des A380 d'Air France. Dernier vol aujourd'hui avec à bord 516 salariés d'Air France qui ont travaillé durant 11 ans avec et pour l'A380. Autre signe des difficultés du secteur, l'équipementier d'AER a annoncé hier la suppression de 1300 postes en CDI. En bref, encore après les mesures de chômage partiel, le gouvernement réfléchit à des aides pour favoriser l'embauche des jeunes. Pas de primes, mais des exonérations de cotisations salariales durant plusieurs années, selon les Échos ce matin. Facture pour l'État, plus de 10 milliards d'euros.
France Inter, 7h07, la suite du journal. Ultime débat hier soir entre les trois candidates à la mairie de Paris, Agnès.
Un débat âpre sur fond de grève, reconduite à BFM TV jusqu'à lundi matin. Un débat dominé par l'affrontement entre la socialiste sortante, Anne Hidalgo, et la candidate Les Républicains, Rachida Dati, arrivée en deuxième position au premier tour. Quand Agnès Buzyn, la candidate de La République En Marche, est restée un peu en retrait, extrait au moment des conclusions.
Je m'adresse aujourd'hui à un électorat central, progressiste, qui est en faveur de l'action du président de la République et du Premier ministre. Mon enjeu est de devenir maire de Paris, mais je ne le serai pas avec une droite extrême qui soutient un sens commun. Ça n'est pas la droite que je veux. Je ne peux pas m'allier avec une droite qui est soutenue par Jean-Marie Le Pen et par Marine Le Pen.
J'appartiens à la droite républicaine, mais vous savez, je ne suis pas la candidate d'un clan ou la candidate d'un camp. Je crois que Monsieur Macron, le président de la République, avec lequel j'ai eu des échanges, il est plutôt sur mes positions. J'ai un parcours républicain.
Heureusement.
Moi, vous savez, j'ai pas besoin d'un chaperon pour faire de la politique.
Le sujet n'est pas d'être le candidat de tel ou tel. Le chemin que je veux tracer, c'est l'écologie et la solidarité.
D'ailleurs, vous avez dit dans le Parisien que vous ne seriez pas candidate à la présidentielle.
Absolument. Pour être maire de Paris, il faut être indépendant. Parce que si vous êtes là pour d'autres intérêts que ceux des Parisiens, vous ne faites pas bien le boulot.
Second tour donc des municipales dimanche dans 4855 communes. Les fouilles n'ont rien donné. Le corps d'Estelle Mouzin reste introuvable. Durant 4 jours, des pelleteuses, des plongeurs, des drones ont passé au peigne fin deux anciennes propriétés du tueur en série Michel Fourniret, situées dans les Ardennes. L'homme est passé aux aveux en mars dernier, 17 ans après la disparition de la fillette à Guermantes. Maître Corinne Herman, avocate du père d'Estelle, estime que ces fouilles ont tout de même été utiles à l'enquête.
Eh bien, on va aller fouiller autre part. On a un dossier qui est construit, on a des aveux, on a des indications. Ça nous a permis de fermer des portes sur le château du Sautou et la maison de la sœur de Michel Fourniret. Il fallait aller vérifier. Mais il y a d'autres endroits. Michel Fourniret avait beaucoup de points de chute. Et c'est donc le commencement d'une nouvelle enquête. Il ne faut pas s'arrêter à un premier résultat. En l'occurrence, dans ces fouilles, effectivement, tous les moyens, y compris l'archéologue, sont intervenus avec une efficacité qui était absolument bluffante. Donc il y a aussi des nouvelles techniques, les drones étaient là, les géoradars, moi je les appelle comme ça, étaient là, il y avait des plongeurs, des spécialistes de la gendarmerie, ils ont fait un travail extraordinaire. On peut dire qu'en tous les cas, ni Estelle, ni d'autres victimes ne se trouvaient sur les lieux qui ont été fouillés. Aujourd'hui, on est à plus d'une douzaine de victimes concernant Michel Fourniret avérées. Il y en a peut-être encore d'autres et donc voilà, le travail est loin d'être achevé.
L'avocate du père d'Estelle Mouzin avec Fabienne Sintès.
7h10, c'est dans le journal aussi, Agnès, des âgés de copropriété en visioconférence.
Solution envisagée pour faire face à l'embouteillage d'Assemblée Générale à l'automne après les annulations des âgés programmées au printemps et reportées pour cause de confinement. Les syndics qui gèrent les immeubles réfléchissent donc à des solutions. Cécilia Arbonnat.
Considérée comme un gadget il y a un an, la possibilité d'organiser des assemblées générales en visio est devenue un outil tendance qui permet notamment de lutter contre l'absentéisme. Rachid Larrage, directeur général de Cinéval, courtier en syndic.
C'est vrai que les copropriétaires ne sont pas motivés à l'idée de se déplacer et encore moins à l'idée de se prendre le chou avec le voisin du troisième pour une histoire de facture à 500 euros. La visio peut apporter une solution.
Testée pendant le confinement, la formule a séduit Stéphane Pujol à la tête d'une agence à Marseille.
Les personnes ne se coupent pas, ne s'interrompent pas. Ça permet vraiment des débats plus respectueux de la parole de l'autre.
Le digital va dépoussiérer la gestion des immeubles, selon Jean Berthoz, président de l'Union des syndicats de l'immobilier pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
On est au début d'une nouvelle aventure et les outils de la digitalisation vont peut-être permettre à la profession de pouvoir faire plus d'actions durant le cours de l'année et d'éviter que l'Assemblée générale cristallise toutes les décisions de la vie de la copropriété.
Mais l'urgence aujourd'hui, c'est de trouver l'espace suffisant pour organiser une réunion en respectant les règles sanitaires. Dans certaines résidences, le rendez-vous est fixé dans le jardin ou dans le parking, sous les néons de la minuterie.
Cécilia Arbona. Attention aux orages dans 8 départements du Sud-Ouest, placés en alerte orange par Météo France, sont concernés la Creuse, la Haute-Vienne, la Corrèze, la Dordogne, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne et le Gers. Enfin, après 30 ans de disette, Liverpool a donc profité de la défaite de Manchester City 2-1 à Chelsea hier soir pour décrocher son 19e titre de champion d'Angleterre. Ambiance de feu hier soir autour du mythique stade d'Anfield Road. Malgré les appels au respect des gestes barrières, les fans français des Reds, eux, auraient bien aimé être à leur côté hier soir. Cédric Guillou.
Des sourires, des embrassades chez ces membres de l'official Liverpool Supporter Club France, mais quand même un regret de taille, fêter ce titre des Reds dans un bar de Paris et non pas à Liverpool. Romain Pourrieux est l'un des membres de ce club de supporters qui compte aujourd'hui plus de 1000 adhérents en France.
On est un peu frustrés de ne pas pouvoir être là-bas, sachant qu'on avait tous prévu d'aller à Liverpool au mois de mai pour aller fêter le titre, pour aller faire la parade et voir les joueurs, voir le staff. Évidemment qu'on est un peu frustrés de ne pas vivre ça là-bas.
Et même si certains membres étaient déjà fans des Reds dans les années 70-80, lors de la période glorieuse du club, beaucoup d'entre eux étaient tout jeunes, voire pas encore nés lors du dernier titre de Liverpool il y a 30 ans. Alors même si elle aussi est déçue de ne pas avoir fêté ça en Angleterre, Emily ne boude pas son plaisir après cette saison quasi parfaite en Première Ligue.
Une seule défaite à ce jour, plus de 20 points d'avance, donc c'est quand même assez fou. Si ces événements actuels n'étaient pas arrivés, on aurait dû être normalement champion en mars, donc c'est une chose qui n'est jamais arrivée.
Et tous ces supporters français ont prévu de traverser la Manche quand ils le pourront, afin, maillot rouge sur le dos, de se masser près du stade d'Anfield pour fêter ce titre.
En attendant, Ali, de pouvoir profiter à nouveau de stades remplis pour assister à des matchs de foot.
Évidemment, you'll never walk alone. Merci Agnès Soubiran.